retrouvons maintenant encore avec Guy Jiménez pour un échange libre. Voilà, les questions peuvent fuser de toutes parts et vous-même, vous pouvez leur poser des questions. Je laisse l'enregistreur au bout de la table. Évitez de taper sur la table parce que ça enregistre tout. Voilà, je vous laisse.
Vous avez gagné des Oscars?
Gagner des Oscars. Mais tu sais que les Oscars, c'est pour le cinéma. Alors, des Oscars, oui, j'ai eu quelques prix, mais pas tant que ça. Mais j'en ai eu quelques-uns qui m'ont fait grand plaisir, quoi, qui ont été ça fait toujours plaisir. Surtout quand ce sont des prix qui sont remis par des enfants aussi, ou ce sont des jurys composés d'enfants et qui ont aimé. Par exemple, je me rappelle un de mes livres. Il était paru, il s'appelait « Vive les punitions » et ça racontait l'histoire d'enfants qui étaient toujours punis à l'école, tout ça. Et il y avait un magazine qui avait fait une critique du livre en disant « Ce livre n'est pas intéressant et ça va tomber des mains des enfants tellement ils vont s'ennuyer à le lire ». Et en fait, c'est pas du tout ça qui s'est passé, c'est que le livre a vraiment bien marché. Et il a eu, juste quelques temps après l'apparition de cette critique, un prix dans une ville avec 500 enfants qui l'avait plébiscité, puis j'étais allé et tout, c'était très joyeux, et c'était formidable. Et pour moi, c'était comme une petite revanche aussi par rapport à la vie des adultes. La vie des enfants était directe. Et puis voilà, donc je me rappelle de ça avec émotion quand même, de ces moments-là, oui. Pardon, le prix des ados en colère aussi pour mon livre Harcèlement, ça aussi, il a beaucoup compté. Parce que c'était dans une région, c'était dans le Pas-de-Calais, et quand j'y suis allé, ce livre parle de choses assez graves, à une situation de harcèlement dans un collège, etc. Et les jeunes qui ont voté pour ce livre venaient de vivre quelque chose comme ça, mais qui s'était terminé de façon très dramatique. Et donc, de pouvoir échanger avec eux, parler de... Changer, ça veut trop rien dire, mais pouvoir les entendre parler de ce qu'ils ressentaient, et puis moi, leur dire, au travers de leurs questions, leur dire pourquoi j'avais écrit ce livre et comment, etc. C'était formidable, et puis d'avoir ce prix, c'était vraiment très, très bien. J'étais très heureux de ça. Mais j'en ai pas eu tant que ça.
Je voulais savoir, est-ce que vous écrivez uniquement des livres et des nouvelles? Par exemple, des citations, des poèmes, etc.
Non, moi j'écris pas de poèmes. Ça m'a passé, j'en ai beaucoup écrit quand j'étais adolescent. Et je pense que c'est ce qu'il y a de plus dur. La poésie, c'est un état particulier. On écrit. Moi je suis plutôt un raconteur d'histoires. Je ne pense pas. Il y a des poésies narratives qui racontent des histoires, mais c'est pas. La poésie, on est dans quelque chose dans l'instant, comme ça, alors que moi, c'est sûr, je joue beaucoup avec le temps. Je raconte quelque chose, mais ce qui m'intéresse, c'est comment je vais le raconter. Des fois, je ne raconte pas le début tout de suite, je raconte quelque chose, et puis, pour pouvoir après dire ce qui s'est passé avant, je joue beaucoup avec ça, j'adore ça. Ça m'intéresse beaucoup, comment je construis une histoire. Comment j'emmène le lecteur. J'espère que vous essaierez de lire un de mes livres, quand même. Voilà, parce que vous savez que là je vous parle comme un écrivain, mais si personne n'ouvre le livre, c'est comme si j'avais rien fait. C'est le lecteur qui fait le livre, c'est pas l'écrivain. L'écrivain, il le fait pour lui, mais il ne fait pas un livre, l'écrivain. Il fait un texte qui devient un livre éventuellement si un éditeur le publie. Encore faut-il qu'il y ait des lecteurs après. Voilà. Vous voulez que je vous lise juste un passage d'un livre comme ça, pour entendre?
Oui.
Comme ça, parce que ça me manque, ça, que vous ne m'ayez pas lu. C'est pas du tout. Je vous en veux pas du tout, mais c'est pour la qualité de l'échange, du dialogue. Tout à l'heure, je regardais, je me disais que je pouvais vous lire. Peut-être le début, c'est peut-être le plus simple.
Le début est pas mal.
Voilà. Donc c'est une. Alors vous voyez, avec. Avec mes 64 ans, bientôt 5, avec mon genre, avec tout ça, eh bien, je m'appelle en fait, la narratrice s'appelle Mélanie, et elle vient d'entrer en 6e. Mardi 1er septembre, mon cher papa, j'ai décidé de t'écrire. J'ai tant de choses à te raconter. Ce matin, c'était la rentrée, ma première fois au collège. mais ne compte pas sur moi pour te décrire en long et en large ma journée. Au fond, je me moque pas mal. L'important dans ma vie aujourd'hui, ce n'est pas la rentrée. C'est ce qui s'est passé avec Vincent, ou plutôt ce qui ne s'est pas passé. Pardonne-moi d'être aussi mystérieuse. Ce n'est pas par plaisir, au contraire. Je crois que je vais avoir beaucoup de mal à te parler de tout cela. Il me faudra du temps. Tu sais, c'est comme un pansement adhésif qui colle très fort et qu'on doit t'enlever. Si on commence à en relever le bord pour tirer dessus doucement, on sait que ça fera trop mal et qu'on n'en finira pas. Le mieux, c'est de l'arracher d'un seul coup, d'un seul, mais on a très peur de se rater. Alors on n'ose pas. Jusqu'au moment où on ne réfléchit plus, on y va et ça y est, on est enfin soulagé. Tu comprends où je veux en venir? Je vais garder secrète encore un peu ma triste histoire d'amour avec Vincent. Ne sois pas trop pressé. En attendant, je te raconterai deux ou trois choses et quand le moment sera venu, je tirerai d'un seul coup d'un seul sur le pansement. D'un seul coup d'un seul est une de tes expressions, alors ça m'amuse de la reprendre. Vincent, je suis sûr que tu te souviens de lui. Il est dans ma classe depuis le CE2 et je l'avais invité à mes 10 ans. Il t'avait flanqué une dérouillée au Malky, si tu te rappelles. En ce moment, la météo n'est vraiment pas idéale. Il pleut depuis 3 jours. À cause de la pluie, j'aurais voulu que maman sorte la voiture ce matin pour m'emmener, mais elle m'a fait remarquer que le collège est à 2 pas. Je n'avais qu'à bien me couvrir et à prendre son parapluie Mary Poppins. Tu imagines un peu? Tu le connais, son vieux parapluie noir, et tu seras d'accord avec moi. C'est un des objets les plus hideux de la maison. Et inutile. La toile en est si usée que les gouttes lui passent au travers sans éclater ou alors de rire. Non, mais tu me verrais, toi, me pointer au collège le jour de la rentrée avec cet antique accessoire de cinéma? J'ai répondu à maman, je ne voudrais même pas du parapluie de Madame Doubtfire, alors celui de Mary Poppins qui date du déluge, tu peux te le garder. Je sais ce que tu vas me dire. J'ai cherché à blesser maman, sachant combien elle adore les films de babysitter du siècle dernier, mais écoute un peu sa réponse. Mélanie, pense à la planète. Oui, tu as bien lu, pense à la planète. Je t'écris les sous-titres. Voiture égale pollution. Pollution égale émission de gaz machin truc. Gaz machin truc égale réchauffement climatique. Donc, en demandant à maman de m'emmener au collège pour cause de pluie battante et froide, je commettais une sorte de crime contre l'humanité et autres espèces vivantes. J'ai trouvé ça culpabilisant et surtout très injuste. Avoue plutôt, ai-je répliqué, que tu as la flemme de t'habiller et de sortir. À ce soir. Je m'arrête là pour pas être trop long. C'est que le début.
Et donc c'est extrait de « J'ai décidé de t'écrire ».
C'est les deux premières pages.
Les sixièmes...
Ah oui, les sélectionnés au prix des collégiens de sixième de Denis Poisson. Mmh. Mmh.
Quel livre avez-vous préféré écrire?
Ah, ça c'est un de ceux que j'ai vraiment préféré écrire. Alors sans doute on est un peu plus proche de ce qu'on vient d'écrire, c'est mon dernier livre ça. Mais en même temps ça a été une longue histoire, j'avais au départ écrit une toute petite histoire très courte qui était parue dans un magazine, et ça me désolait parce que le magazine s'appelait Les Petites Sorcières, l'histoire s'appelait Mon Cher Papa, et en fait elle était lue que par des filles, les garçons ne mettaient pas le nez dans un truc qui s'appelle Les Petites Sorcières. Alors après j'ai voulu que ça soit publié, et ça a été publié en livre, mais le texte très court. Et puis il n'a pas trop marché, il est resté comme ça, l'édition n'était pas terrible. Et des années ont passé, et un jour quelqu'un qui s'intéressait à mon travail m'a dit « Mais Mon Cher Papa est un texte que j'aime beaucoup, pourquoi vous n'essayez pas de le faire reparaître ?» Et je l'ai adressé aux éditions Nathan, qui m'ont dit « Oh là là, on l'aime beaucoup, mais c'est beaucoup trop court. » Et ils m'ont dit, si vous le faites au moins 3 fois plus long, ben peut-être. Et là, j'ai beaucoup hésité, parce que si vous le lisez un jour, vous verrez qu'on va de... Enfin, il y a quand même comme des... Ah, je ne sais pas comment dire ça. On se demande quand même pourquoi elle écrit à son père. Et puis, j'avais peur de gâcher le suspense ou de... En délayant l'histoire. Donc, je n'ai pas délayé l'histoire. Je l'ai reconstruite complètement. Et j'ai fait un roman d'une 100aine de pages avec un texte qui en faisait à peine 30, quoi. Et j'ai adoré la réécriture. Alors, bizarrement, alors que je détestais ça quand j'avais votre âge, quand le professeur disait « il faut recommencer », c'était d'un ennui,
Ce que je préfère maintenant, c'est pas écrire, c'est réécrire. C'est reprendre ce que j'ai fait pour que ce soit encore mieux, etc. Comme un artisan qui refait. Voilà, c'est passionnant. Voilà, mon travail. Et ce livre-là, j'y suis attaché parce que j'ai beaucoup travaillé aussi. Mais aussi beaucoup travaillé pour que le travail ne se sente pas. Vous voyez ce que ça veut dire aussi. Il ne faut pas que ça soit comme quand. Ou pas trop. Alors, les grands artistes. Ça se voit, mais moi je suis pas un artiste, je suis un artisan. Je pense que, en disant ça, je pensais à une toile du grand peintre Picasso qui est très connue, qui s'appelle Guernica, où on voit les traces, on voit les crayons, on voit toutes les. C'est comme si elle n'était pas finie, et c'est génial. Donc non, moi il faut que je cache le travail. Il ne faut pas que le travail se voit.
Alors, parmi nous, il y a Marine qui aime beaucoup lire, un genre particulier. Tu peux nous en parler un petit peu ?
Bah oui, j'aime bien lire tout ce qui est roman policier et tout ce qui est fantastique et science-fiction.
Je peux te demander un exemple de ce que tu as aimé récemment ou pas, enfin un livre qui t'a marqué. Si par hasard je le connais, ça m'intéresserait, ou si je ne le connais pas, bah, ça me donnera peut-être envie de le lire.
Ça s'appelle « Le gardien des cités perdues ». C'est un livre fantastique qui raconte l'histoire d'une jeune fille qui est comme les autres, mais qui entend les pensées des autres personnes. Ah. Et elle comprend qu'en fait, c'est une elfe.
D'accord.
Voilà.
Très bien. C'est paru récemment, il y a longtemps ?
Le dernier tome, il vient de sortir il y a un mois. Mais ça s'est paru en 2015, je crois. Le premier tome, mais il y en a 8.
D'accord. Je ne connais pas, voilà. Il y a tellement de choses que je ne connais pas.
Il y en a d'autres, non, qui veulent parler d'un livre qu'ils ont bien aimé, Nawel ?
J'avais bien aimé le livre qu'on a pu lire pour le collège qui s'appelait « Traquer sur la lande ». C'est quelle édition ? J'ai oublié. La gamme, enfin le...
La collection ?
La collection, voilà.
Traquer sur la lande, c'est ça ?
Tout à fait.
C'est un polar, c'est un... policier, non ? Roman noir ou fantastique,
c'est plutôt. Plus c'est plus du suspense.
Oui. Ouais.
C'est un peu policier.
Ouais, aussi. Mmh. Oui.
Comment faites pour avoir l'envie d'écrire ?
Comme la chanson, donnez-moi l'envie d'avoir envie. je sais pas.
Le matin, vous réveillez, vous avez l'imagination, vous écrivez.
Non. L'imagination, je ne crois pas en avoir beaucoup. On écrit. Il faut. Ah là là, l'imagination. Des fois, j'aide des enfants à écrire. Et j'adore faire ça. Des ateliers d'écriture. Là, cette année, j'en ai fait avec 3 sixièmes et 2 classes de primaire. Et alors, les enfants, plus ils sont jeunes, au primaire. Ils ont une imagination, mais débordante. C'est-à-dire, ça part dans tous les sens. Et moi, je leur dis, oh là là, mais stop. Avec tout ce que vous écrivez là, on peut faire 50 histoires, mais on doit en écrire qu'une. Alors, gardons quelque chose. Et alors, c'est pas non plus pour... comment dire ? Il faut pas 36 idées. Souvent, un livre repose sur une idée forte. Et c'est cette idée que souvent je cherche, quelque chose d'essentiel. Qui fait que ça vaut le coup de raconter l'histoire, sinon ça vaut pas le coup si c'est une histoire de plus avec plein de... l'imagination, c'est une chose, on peut rêver, dans sa tête, on peut imaginer plein de choses. Écrire, c'est mettre des mots, mettre en mots ces images qu'on a dans la tête. Dans la tête, ça va très vite. Écrire, déjà, le geste est ralenti par le... Parce que justement, il y a un geste, donc il faut le temps d'écrire, etc. Enfin, je fais le geste avec la plume et le stylo, mais en réalité, je tape à l'ordinateur. Ça peut aller très vite. Je connaissais un écrivain qui tapait à toute vitesse, et il me disait que toute la journée, il écrivait, mais vraiment, presque à la vitesse de sa pensée. Alors lui, je pense que ça débordait son imagination, il y allait comme ça. Moi non, moi, je suis quelqu'un de très laborieux, je recommence souvent, etc. Et donc, lui écrivait comme ça. Et il me disait, la nuit, je m'endors, et vous savez, peut-être c'est toi qui le disais tout à l'heure, en s'endormant, un peu comme les enfants, on entend une histoire, puis on est dans une espèce de rêve éveillé. Et lui, il rêvait, mais il me disait, mais mon rêve, en fait, c'est mes doigts qui le tapent sur un clavier. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça continuait, il était complètement dans ce processus. Ouais. Voilà. Donc moi non, c'est pas ça. Bien sûr, il faut de l'imagination, mais tout le monde en a. Mais toi, ta question, c'est l'envie. Comment on a envie? Ben, je sais pas. C'est... On a envie ou on n'a pas envie d'écrire. Donc voilà. Ce qui peut. Souvent, moi, j'ai. Quand j'étais enfant, c'est vraiment mes lectures qui me donnaient envie d'écrire, vraiment. Ou mes émotions aussi, voilà, exprimer quelque chose. Oui.
Il n'y a pas de frein, en fait.
Sowana.
Est-ce que vous pensez que l'école est en partie là à cause du manque de lecture chez les jeunes ou pas?
Que l'école est...
Il fallait que tu nous expliques un peu mieux. Que l'école, elle est là à cause... Parce que les jeunes, ils n'ont pas lire. Pour les punir, on a fait l'école. Non. J'ai pas bien compris. Ah, non, redis-le.
Que l'école, c'est en partie la cause du manque de lecture chez les jeunes.
Ah, est-ce que... J'ai peut-être mal compris, mais est-ce que...
Explique-nous ce que tu penses, pourquoi tu dis ça, justement.
Est-ce que vous pensez que s'il y a de moins en moins de jeunes qui lisent des livres, c'est parce que l'école leur a, entre guillemets, dégoûté de la lecture ou pas?
Oui, oui, c'est ce que j'avais compris. Moi qui vais souvent dans les écoles, je comprends ta question, qui est plus qu'une question, on sent derrière presque comme un avis, comme une opinion. Moi, je ne serais pas si sévère, envers l'école. L'école, elle met en contact quand même avec des textes, elle peut donner envie de lire. Si l'école dégoûtait de lire, ça serait terrible. Comment ça se passerait? Peut-être ça se passe. Si on oblige à lire, c'est ça? Mm-hmm. Si on demande de faire des comptes rendus de lecture, des choses comme ça.
Des livres qui ne nous emballent pas forcément.
Oui, on vous oblige à lire des livres qui ne vous emballent pas. Mm-hmm. Et alors? Pourquoi faudrait-il que tout ce que vous faites à l'école vous emballe?
Mais sinon, ça ne donne pas envie de lire.
Oh oui, ça ne vous donne pas envie. Je veux bien. Tort partagé, je dirais. Sans doute que l'école, des fois, fait ça. Mais c'est pas... Elle ne fait pas principalement ça.
Franchement, non.
Il ne faut pas que ce soit une mauvaise excuse aussi pour vous.
C'est la technologie qui empêche de lire.
Oui, tu sais. Il faut pas que ce soit pour vous une... C'est trop facile de dire « Ah oui, l'école, ça m'a dégoûté de lire, donc je lis pas. » Mais non, personne ne vous empêche de lire. Vous êtes libre en dehors de l'école. Vous voyez ce que je veux dire? C'est trop facile.
Mais on est bien d'accord que la lecture est quand même importante dans la vie courante. Les gens qui savent pas lire, ils vont pas réussir à...
Oui, ils ont zéro vocabulaire.
Non, mais une personne qui sait pas lire... Ça va devenir un handicap.
Très, bien très sûr. Vite.
Parce qu'elle ne va pas pouvoir se débrouiller à faire ses démarches administratives. Il y a plein de choses qu'elle ne pourra pas faire.
Je peux te poser la question. Comme tu as dit, tu as exprimé cette chose assez critique de l'école. Et c'est toi aussi qui as dit que tu aimais beaucoup les cours de français, etc. Mais pas la lecture, c'est ça? Ah, d'accord. D'accord. Là, je comprends mieux. Et tu ressens ça, que c'est à cause de l'école que ça t'a dégoûté de lire?
Peut-être pas, j'irais peut-être pas jusqu'au mot dégoûté, mais c'est en partie à cause de ça que je lis de moins en moins.
Ouais, mais... oui. Ben, je suis passé par l'école aussi, à une autre époque. Il y avait des moments où j'aimais pas, où c'était difficile, où on apprenait des textes qui... On travaillait des textes qui nous ennuyaient et tout ça, mais... En même temps, on est là pour ça aussi. On est là pour apprendre et ça demande un effort. C'est pas qu'une... Tant mieux si on apprend avec plaisir. Et ça devrait être vraiment la règle. Mais ça peut pas être à 100%. Quoi. Donc c'est aussi normal qu'il y ait de temps en temps des efforts à fournir. Voilà. Mais encore une fois, en dehors de l'école et des livres qu'on vous demande de lire, vous avez toute liberté. Hein. Il y a des bibliothèques, il y a des librairies. Voilà.
Alors attends, il y avait une question de Najwa.
Moi, des fois, dès que notre prof de français nous donne des livres à lire, rien que voir la couverture, ça me donne pas envie de lire. Parce qu'après, j'aime bien lire les BD et tout, mais genre tout ce qui est long comme livre, ça me donne pas du tout envie. Et je lis pas, après, je lis pas.
Sowana.
Mais après, on est quand même confronté à la lecture continuellement parce que... Enfin, je parle pour moi en tout cas, mais je trouve qu'en général, sur Internet, on est toujours en train de lire les derniers potins, etc., sur les stars. Donc, on a quand même un minimum de lecture pendant nos heures de libre.
Abdel.
Moi, je pense qu'on ne lit pas assez parce que c'est pas assez illustré, les livres, comparé aux bandes dessinées.
Oui, les bandes dessinées, il y a peut-être trop d'images aussi.
Ouais. Bah, ça... Et on comprend mieux.
Ouais, c'est mieux.
Oui, mais c'est différent.
Ouais, c'est différent parce voilà. que dans un livre, c'est nous, on invente les images dans notre tête. Oui. Et si on a déjà des images imposées, on ne peut pas avoir ce travail en fait, d'imagination et de personnalisation de ce qu'on lit, justement. Mmh.
Mais en fait, dans.
Tu peux imaginer ton dialogue.
Non, mais si tu lis le dialogue.
Dans tous les cas, tu imagines quelque chose.
En tout cas, dans ce que vous exprimez, on voit bien qu'il y a une diversité aussi de livres. Ben justement, il y a des bandes dessinées, il y a des albums sans texte, il y a des livres longs, il y a des livres courts, il y a des livres avec beaucoup de dialogues, d'autres avec plus de descriptions, il y a des séries dans lesquelles on entre comme dans un univers, et puis il y a tellement de choix.
Alors, on est heureux de vous accueillir en chair et en os, c'est bien vivant. Et pour faire suite au débat qui a été lancé par Soana, vous pensiez, vous aussi, quand vous étiez jeune, que les écrivains étaient des hommes morts. Et aujourd'hui, peut-être que les jeunes lisent des textes un peu trop anciens. Enfin, je sais pas, je me tourne vers la jeunesse, leur demander, est-ce que c'est parce que c'est un peu ancien? Est-ce que vous avez pensé, vous aussi, des fois, que vous ne lisiez que des livres de personnes mortes? Comme ça a été le cas pour Guy Jiménez, oui.
Bah, pour le moment, on étudie un livre sur les fourberies de Scapin. Enfin, c'est
Molière.
Du théâtre, qui est écrit par Molière, et c'est très ennuyant.
Et très compliqué à comprendre aussi.
Trop de texte. Après, personne morte ne veut pas dire forcément personne ancienne. En prenant l'exemple de la biographie de Simone Veil qu'on a lue en français, Simone Veil, en fait, elle est décédée il n'y a pas très longtemps et c'est pas non plus une personne qui a vécu deux siècles avant nous, quoi. Ça suit quand même le cours de l'histoire. Donc, il faut faire une différence entre une personne qui n'est plus là et une personne qui a vécu il y a deux ou trois siècles.
Oui, bien sûr. Bah, plusieurs choses à dire à ça. Enfin, moi, quand je disais que je pensais que tous les écrivains étaient morts, ça ne m'empêchait pas de les lire. Hein. Ce n'est pas parce qu'ils étaient morts que je n'avais pas envie de lire leurs livres. L'époque a changé, bien entendu. Tellement de choses se sont passées. Le rapport avec la littérature classique. Mais c'est important, je pense, que l'école joue ce rôle de montrer aux enfants le... Comment vous dire ça ? Moi, je le ressens tellement quand j'écris. Quand j'écris, je me sens tellement petit. Et je me sens faire partie de quelque chose d'immense. Et qui est la littérature. Il ne faut pas trop que je me pose de questions et tout ça. Mais je sais bien que je suis dans quelque chose. Il y a quelque chose avant, il y a quelque chose en même temps. Et il y aura d'autres choses après. Et c'est important de savoir ce qu'il y a eu avant. Et particulièrement pour la littérature, pour l'histoire, et tout ça est lié. Mais je comprends que ça pose des problèmes de difficulté après de lecture, si la langue est difficile. Par exemple, moi, il y a un écrivain que j'adore, mais qui est très difficile à lire, c'est Rabelais, parce que c'est en ancien français, tout ça, c'est infernal. Donc il faut lire presque des traductions. Mais justement, l'école peut vous enseigner le... Je sais pas, Molière est encore joué, et quand on va voir une pièce de Molière, si elle est bien montée, tout ça, ça marche toujours. Alors après, ben, je sais pas, là. Voilà, vous voyez, j'ai envie de défendre l'école. Hein. Je vais pas aller trop dans votre sens, même si je comprends ce que vous dites, et même si je pense que vous avez en partie raison. Mais c'est pas ou tout blanc ou tout noir, c'est pas une chose ou l'autre, c'est un peu un mélange de tout ça. Voilà.
Alors, parmi nous, il y a Abdel qui, comme vous, est né à Oran.
Alors, vous
avez peut-être des choses à vous dire, je ne sais pas. Tu aurais des questions à poser sur... ou vous-même, est-ce que vous pouvez nous parler de votre jeunesse à Oran?
Ouais, je ne sais pas, on a combien d'heures?
Je ne sais pas, en quelques mots.
On a combien
Abdel, alors?
On a combien de jours?
Les souvenirs que tu as?
Moi, c'était mouvementé.
T'as fait combien de temps?
Oui, je préfère entendre Abdel en parler. J'en parlerai un petit peu après, si vous voulez, mais ça m'intéresse beaucoup d'entendre Abdel.
Bah, moi, j'ai vécu 7 ans en Algérie.
Oui.
Et bah, moi, l'école, ça s'est jamais bien passé pour moi là-bas. Du coup, ben, ma famille, elle a décidé de venir vivre en France.
Pour l'école, à cause de l'école?
Ouais, en partie.
Tu vivais à Oran même?
Ouais. Bon, après, moi, je me rappelle pas trop.
Tu te rappelles pas
des
trop
détails?
Ah ouais, si t'avais 5 ans. Ouais.
Juste l'école qui était pas terrible.
Ouais. Ouais.
Parce que ça t'a marqué, parce qu'on en a déjà parlé. Donc, c'est quelque chose qui...
Bon, alors, vous, votre scolarité à Oran, jusqu'à vos 5 ans, jusqu'à ce que vous ayez l'âge d'Adèle?
Alors,
ou...
Moi, je suis né à Oran, mais j'ai vécu à côté d'Oran, une soixantaine de kilomètres, dans un village... Mais moi, c'était au temps de la colonie, quoi, au temps de l'Algérie française. Donc, territoire français. Je suis né en 1954,
oui.
Qu'on marque comme le début de la guerre. Donc, je suis pas responsable. Hein. Mais c'est, je veux dire... Et donc, je suis né, la guerre d'Algérie commençait, tout ça. Je pense qu'elle avait commencé bien avant, mais ça, c'est autre chose. Mais les historiens s'accordent pour la faire débuter là. Et puis, elle se termine par l'indépendance de l'Algérie en 1962. Et peu avant... Après cette indépendance, avec les accords d'Évian en mars 62, la plupart des Français d'Algérie s'en vont. À l'époque, l'Algérie, c'est 10 millions de personnes, 10 millions d'Algériens, 1 million de Français d'Algérie à peu près, 800 000. Peut-être à 80%, peut-être plus, 90%, je ne sais pas exactement, les Français d'Algérie s'en vont à ce moment-là. Ma famille décide de rester. On demande à mon père de rester parce qu'il avait un petit travail. Il était rédacteur de mairie, c'est-à-dire un travail de bureau dans une administration importante, puisque c'est la mairie qui s'occupe d'administrer tout un village, etc. Et les nouvelles autorités lui ont demandé de rester, se désolant que tant de gens, que tant de Français partent, parce qu'il fallait aussi que le pays... Mon père a accepté de rester, mais on est resté qu'un an. Pourquoi on est venu? À cause de l'école, comme toi. Mes parents ont dit que ce n'est pas possible de continuer comme ça, avec l'école comme ça. Et donc on est venu en France. Peut-être c'est ce qu'ils m'ont toujours dit, mais en même temps on ne prend pas une décision du jour au lendemain, donc ils ont dû assez vite la prendre, cette décision. Alors moi j'ai le souvenir d'une année où j'avais entre 8 et 9 ans, très précisément en septembre. Et en fait, c'est comme un... C'est pas un blanc, parce que j'ai des souvenirs, mais je me rappelle de tellement peu de choses que je pense que j'ai refoulé énormément de choses. Voilà, pour tout vous dire. J'ai pas trop de souvenirs de cette année d'école, mais je sais qu'elle a été difficile. Pour aller très vite, en Algérie, on me disait, comme à deux ou trois petits Français qui restions dans les classes, « Qu'est-ce que vous faites encore ici? C'est plus votre pays. » Aujourd'hui, on dirait « Dégage. » Et quand je suis arrivé en France en septembre 63, les petits Français du Loiret m'ont dit « Qu'est-ce que tu viens faire ici? Retourne d'où tu viens. » Bon, je dramatise, hein, je caricature, mais ça exprime quand même ce qui s'est passé. Donc je me retrouvais avec, dans ma tête, je n'avais droit à aucun pays, puisque je n'étais ni d'Algérie où on ne voulait pas, ni de France où on ne voulait pas. J'ai mis beaucoup de temps, et je n'ai pas encore fini, de savoir exactement d'où je viens. Et si c'est pas... Je pense que mon pays, c'est la France. Je pense que mon pays, c'est l'Algérie, en partie. Je pense que mon pays, c'est l'Espagne aussi, d'une certaine manière, puisque la région d'Oran, Adèle doit bien le savoir. Moi, j'y suis allé en 2010 à Oran, et les vieux Algériens qui nous voyaient savaient très bien qui on était et qu'on venait sur les traces de notre enfance, tout ça. Et ils nous parlaient en espagnol, pas en français. C'est marrant, ça. Donc Oran, c'était comme une ville espagnole, et les vieux Algériens d'Oran parlent sans doute parfaitement... français, arabe, espagnol. Et donc voilà, c'est important de savoir d'où on vient, etc. Ça dépend ce qu'on veut en faire, quoi. Si c'est pour dire qu'il y a les bons et les méchants, et puis pour diviser le monde, ça sert à rien. Par contre, j'en ai tiré quelques leçons, je pense, de cette particularité d'être
d'être né là-bas. Puis ça me touche toujours hein, quand on parle de l'Algérie et tout, et en ce moment. Et ben voilà, pourvu que les choses évoluent bien et que les gens aient envie d'être... Il y a eu tellement de gens qui ont souffert dans tout ça, là, de la colonie française, les Algériens en premier, de la guerre aussi, même les Algériens entre eux, la guerre d'Algérie, c'est pas... Moi, dans les années 70, quand j'étais étudiant, avec tous mes copains, quand ils parlaient de la guerre d'Algérie et tout ça, il y avait les bons Algériens et les méchants Français. Mais dans les bons Algériens, il y avait aussi des Algériens qui s'étaient entretués pour le pouvoir en Algérie. Dans les méchants Français, ben, il y avait des Français comme ma famille qui vivait avec un niveau de vie inférieur de 20% aux Français de la métropole. Les Français de la métropole ont vite évacué cette question de l'Algérie. Voilà, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Et chacun veut tirer un peu la couverture à lui de ses souffrances, les appeler d'Algérie, ceux qui sont allés se battre là-bas, on ne sait pas bien pourquoi et tout ça. Donc toute cette somme de souffrances, moi j'en finis pas enfin, de m'intéresser à ça, de lire des choses et tout. Et on a l'impression que c'est jamais fini et que ça revient toujours, l'Algérie et la France. C'est pas fini, là. Bon, pardon, mais vous m'avez posé la question, mais je vous avais dit, hein, et encore, non, hein, on peut faire beaucoup plus long.
C'est très bien, c'est bien de savoir.
Des réactions ? Alors, on va terminer là. Merci Guy Jiménez, c'est pour ça que quand je vous ai demandé comment on disait, je pensais Jiménez. Ben, comme en espagnol, alors, si on dit vous, comment alors?
Si vous voulez le dire en espagnol, ça va être Jiménez.
Voilà.
Et même, c'est plutôt d'origine, après, dans Andalouse, des trucs comme ça. Alors, vous ne prononcez même pas la fin et tout. Donc,
on va le dire en français.
C'est trop acrobatique, donc voilà. Vous allez dire Guy Jiménez.
Merci.
Je l'ai dit moi-même.
Merci Guy Jiménez d'avoir
merci
répondu
à... Vous,
à...
Merci à vous, j'espère que ça vous sera intéressé. Moi, j'étais ravi de dialoguer avec vous. C'est surtout moi qui parlais.
Bon, c'est pour ça qu'on vous avait invité.
Voilà.
Merci à Laetitia Launay qui a permis cette rencontre possible entre vous et les jeunes. Merci. Les jeunes qui étaient donc Laetitia Launay, leur animatrice, qui travaille sur des projets de lecture et d'écriture auprès des jeunes. Merci donc à Didem, Marine, Najwa, Inès, Fiona, Stéphanie, Naomi, Nawel, Sawana et Abdel d'avoir participé à cet échange.
Sawana.
Sawana, j'ai dit quoi?
Sawana.
C'est moi qui écris mal. Sawana. Sawana.